Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle d'intelligence artificielle. Vous nous avez présenté hier l'œuvre du philosophe italien Luciano Floridi, spécialiste des conséquences morales de l'intelligence artificielle. La grande question, celle qui nous préoccupe de la manière la plus existentielle, concerne l'avenir du travail. Les robots intelligents, capables d'apprendre par eux-mêmes, vont-ils nous remplacer?
Oui, et Luciano Floridi fait à ce propos une autre remarque intéressante. L'intelligence artificielle va donner davantage de pouvoir à l'usager. La participation du client sera de plus en plus sollicitée, comme on l'observe déjà dans les supermarchés, qui nous incite à scanner nous-mêmes nos achats. Mais l'intelligence artificielle va surtout renforcer la possibilité du consommateur de participer activement à l'élaboration et à la création d'un produit véritablement sur mesure, en supprimant une fois encore de nombreux métiers au passage, et pas seulement celui des caissières. Beaucoup d'emplois situés entre les désirs du consommateur et leur réalisation vont faire l'objet d'une sorte de court-circuit, comme on le voit déjà avec les plateformes numériques qui sont des systèmes de désintermédiation. Les machines connaissent bien nos goûts, nos aspirations, nos besoins, et pour ce qui est de les satisfaire, leur imagination est sans limite. C'est pourquoi le philosophe italien se montre pessimiste quant aux retombées sociales de ces nouvelles machines intelligentes. Le risque est que l'intelligence artificielle continue à polariser nos sociétés entre ceux qui possèdent et ceux qui ne posséderont jamais, écrit-il. Il n'est pas difficile d'imaginer une hiérarchie sociale qui, dans l'avenir, placerait une poignée de patriciens au-dessus non seulement des machines intelligentes elles-mêmes, mais d'une énorme nouvelle sous-classe plébéienne. Margaret Bowden, de son côté, s'inquiète de voir dans un proche avenir des intelligences artificielles se substituer au contact humain interindividuel. Ainsi, certains imaginent déjà des robots compagnons pour personnes âgées isolées. Luciano Floridi écrit « Nous allons devoir repenser la sociabilité elle-même avec l'apparition de compagnons artificiels, d'hologrammes, de domestiques en trois dimensions ou de robots sexuels, aptes à procurer des alternatives à l'interaction humaine pratiquement indiscernable des relations interpersonnelles. » Personnellement, je vous dirais que je souhaiterais disposer d'un hologramme de mes penseurs favoris, programmé à partir de leurs écrits, afin d'avoir, disons, avec Montesquieu, Tocqueville ou Raymond Aron, quelques discussions du soir enrichissantes. C'est peut-être mon cadeau de Noël.
J'ai eu peur, j'ai cru que votre préférence était ailleurs.
Non, mais je vous laisse cette préférence-là. Une question d'année, probablement, ça sera mon cadeau de Noël de 2027, si vous voulez bien. Il n'y a pas que les relations humaines que nous pourrions être amenés à repenser d'après Floridi. Ce sera aussi et surtout le cas du concept de liberté. En effet, que reste-t-il dans un monde où des systèmes d'intelligence artificielle peuvent prédire et manipuler nos choix? Mais nous n'y sommes pas déjà exposés depuis que la publicité sur Google cible nos centres d'intérêt que le moteur de recherche semble souvent connaître bien mieux que nous. À force de chercher à prédire nos comportements, n'y a-t-il pas un risque de nous enfermer dans un répertoire culturel limité, aggravé d'ailleurs par les réseaux sociaux?
Et vous évoquiez hier les retombées militaires de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va vers une guerre des robots?
Dans le dernier numéro de la revue Prospect, qui vient juste de sortir, le philosophe A.C. Grayling publie justement un article consacré à cette question. Comme bien des spécialistes de stratégie, il fait le constat que ce sont les technologies et leur évolution qui scandent le développement de la pensée stratégique. L'invention du canon, on le sait, a ruiné le château fort, comme celle du tank a mis fin à la guerre de tranchées. Et la guerre du Vietnam a marqué l'entrée dans la guerre de l'hélicoptère. Mais à ses yeux, je cite, « le prochain tournant dans la longue histoire de la guerre pourrait bien être les machines autonomes à tuer des gens ». Des drones tueurs sont employés par les États-Unis au-dessus de l'Afghanistan et de l'Irak. Ces systèmes, dit-il, suggèrent une guerre du futur dans laquelle le combat sera l'affaire de machines de plus en plus libres de contrôle humain. À l'heure actuelle, on le sait, ces drones tueurs sont pilotés à une distance confortable par des militaires, basés en particulier dans la base de Creech, près de Las Vegas, ce qui pose déjà de sérieux problèmes moraux, car cette forme de guerre est jugée déloyale par les insurgés. Mais Grayling relève que des glissements sémantiques sont bien propres à inquiéter. On est sur le point de passer, dit-il, de systèmes contrôlés en temps réel par des humains, comme disent les militaires, avec « humain dans la boucle »,« human on the loop systems », à des armes nouvelles qualifiées d'humain hors de la boucle, human out of the loop, c'est-à-dire complètement autonome, programmé pour rechercher, identifier et attaquer des cibles sans contrôle humain. Comme l'écrit le philosophe britannique, l'idée de déléguer une décision de tuer à des machines contredit les lois humaines, car celles-ci comportent, du côté des démocraties en tout cas, le devoir de discriminer entre les cibles militaires et celles qui ne sont pas. Mais comme il le remarque également, les guerres du XXe siècle ont vu les populations civiles urbaines écrasées sous des tapis de bombes, et de rappeler qu'en 1899 a été signé par les grandes puissances de l'époque à La Haye un traité prescrivant les bombardements aériens. On pensait alors au risque de lancer des grenades depuis des ballons dirigeables. Alors vous voyez, l'espoir de voir interdire la guerre des robots est bien mince.